Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h46, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin sur RTL, Jérôme Grandénon.
Bonjour Jérôme Grandénon, merci d'être Bonjour. Avec nous dans ce studio. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, et c'est quand même le plus grand nombre, disons quelques mots que vous êtes un homme de l'ombre, un pur produit RPR, de droite depuis toujours, jamais élu, juriste, longtemps au service de Jacques Chirac et plus récemment ancien directeur de campagne de Bruno Le Maire pour la primaire de la droite. Jérôme Grandénon, qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous passez à l'ennemi?
D'abord parce que c'est pas l'ennemi. C'est la continuité d'un engagement. Moi, j'ai rejoint Bruno Le Maire il y a 4 ans sur un constat. Le constat, c'est que nous sommes dans un système qui est complètement à bout de souffle. Nous avons une classe politique qui ne s'est pas renouvelée depuis 30 ans et qui a un besoin très fort dans le pays de renouveau. Le pari que nous avons fait pendant 4 ans avec Bruno Le Maire, c'est de porter ce langage du renouveau. Bon, les résultats sont là, le pari s'est raté pour une raison, je crois, assez simple. Qui est que ce langage du renouveau ne pouvait, qui est en fait quelque part une remise en cause du système, ouais. ne pouvait pas être audible dans le cadre d'une primaire de la droite, c'est-à-dire dans le cadre du système lui-même. Je crois que toute l'intelligence d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir compris que on ne remettait en cause le système que si on se mettait pas dans le système, et le fait de ne pas être s'être remis dans les primaires, je crois, est un gros avantage qui fait que Emmanuel Macron est audible aujourd'hui, oui. là où Bruno Le Maire ne l'a pas été.
Enfin, Emmanuel Macron, c'est un des reproches qui lui est fait d'ailleurs très couramment, c'est un homme du système, banquier d'affaires, énarque, homme de réseau, issu du même moule que ceux dont il veut se distinguer absolument. Qu'est-ce qu'il y a de différent de votre Bruno Le Renouveau?
La question, c'est le moule politique. Vous avez quand même Macron n'a pas été élu à 4 ans d'exercice public, 2 ans en cabinet à l'Élysée et 2 ans comme ministre. C'est quelqu'un de nouveau et donc qui a une approche nouvelle.
Il a été ministre, Emmanuel Macron. Bruno Le Maire, effectivement, il a été ministre. Il était effectivement aussi à l'Élysée, mais Macron aussi. Alors, quelle est la différence?
La différence, c'est que Bruno Le Maire s'est inscrit dans cette primaire, c'est-à-dire dans le fonctionnement des partis actuels, avec tout ce que ça représente aujourd'hui de rigidité.
Vous voulez dire, en fait, que c'est la question de la primaire elle-même qui a nuit à la capacité de Bruno Le Maire de renouveler, d'incarner ce renouveau?
À l'évidence, parce que la primaire, quand on voit le résultat, a attiré un noyau dur, un électorat, les 4 millions, 5 ou même les 3 millions pour François Fillon, c'est un électorat très conservateur, à l'évidence. Je crois que les primaires, en fait, aujourd'hui, apparaissent aujourd'hui comme un vrai jeu de dupes. Pourquoi? Parce que ça stratifie le discours politique.
Vous vous êtes sacrément trompé quand même. Hein, parce que c'est vous qui êtes allé chercher, non, Bruno Le Maire pour lui dire venez à la primaire.
Mais...
Et aujourd'hui, vous changez de cheval et vous allez soutenir Emmanuel Macron qui dit justement la primaire, c'est la négation de la politique.
Il faut voir l'origine, encore une fois. L'idée, c'était de porter ce langage du renouveau, ouais. d'essayer de mettre en place une nouvelle génération de politiques aux affaires. J'ai changé de bateau, j'ai pas changé de direction.
Emmanuel Macron, c'est ni droite ni gauche, dit-il. Il n'est ni de droite ni de gauche.
Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui,
Vous croyez que ça veut dire quoi ?
Le clivage droite-gauche aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure les partis qui le représentent, le PS et les Républicains, représentent encore l'offre politique qu'attendent les Français. Elisabeth Martichoux, imaginons une minute que la campagne présidentielle aujourd'hui se passe sans Emmanuel Macron. Mmh. Ça veut dire qu'on aurait juste le débat politique ramené à une confrontation entre François Fillon et Benoît Hamon. Mmh. C'est-à-dire Margaret Thatcher contre le programme commun.
Benoît Hamon, c'est le programme commun de la gauche.
On est toujours dans le même discours socialiste archaïque de plus de dépenses publiques, de plus de redistribution, d'un programme dont on sait à l'évidence et sans faire de polémique qu'appliqué pendant 6 mois, il mettrait l'économie française à genoux. On n'a pas évolué en 30 ans.
Mais alors qu'est-ce qui remplace ce clivage dont vous dites qu'il est incarné par Hamon et Fillon? Qu'est-ce qui remplace ce clivage gauche-droite dont les Français ne voudraient plus selon
nous? Nous sommes aujourd'hui clairement dans une phase de décomposition. La phase de décomposition précède la phase de recomposition. Je pense que le grand clivage aujourd'hui, c'est entre le conservatisme conservatisme et la modernité. Nous avons deux conservatismes, un conservatisme de droite, de façon claire, qui a été reconnu, approuvé par les électeurs en élisant François Fillon à la primaire, et un conservatisme de gauche avec Benoît Hamon.
Un mot de François Fillon empêtré dans le Penelope Gate, jour après jour. La justice doit passer, bien sûr, elle dira si elle classe l'affaire, s'il y a détournement de biens publics ou abus de biens sociaux, on verra. Mais les Français s'interrogent ce matin, au fil des révélations, peut-il tenir?
Écoutez, ça c'est certainement pas à moi de répondre. Ayant choisi un autre candidat, la justice est saisie de ce dossier, la justice va se prononcer, laissons faire la justice.
C'est une affaire hors norme?
C'est une affaire hors norme parce que, à ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a la justice se saisit d'un dossier 3 mois avant une élection. En cela, c'est une affaire hors norme. Mais maintenant qu'elle est saisie, laissons faire la justice.
Ouais. Et s'il devait jeter l'éponge, hypothèse que lui-même d'ailleurs a mis sur la table en évoquant une mise en examen, ça tuerait le principe de la primaire qu'il a porté en triomphe il y a quelques mois?
Moi je crois que ce qui tuera le principe de la primaire, c'est justement le succès d'Emmanuel Macron. Mmh. C'est-à-dire que ça va montrer finalement que ces primaires, au lieu de faire apparaître un vrai débat, cornérise les candidats dans des discours assez extrémistes et assez caricaturaux.
Alors, Benoît Hamon, il y a quelques jours, a remporté alors, du coup, la primaire de la gauche en apportant des idées face à Manuel Valls, dont on justement doutait de la capacité à produire des propositions nouvelles. Emmanuel Macron, vous le ralliez, mais on ne connaît pas son programme. Qu'est-ce qui vous a donné, nous, une proposition, par exemple, dont vous dites, ça c'est nouveau, ça m'intéresse?
Alors, justement, ce qui est intéressant, et ce qui est fascinant, excitant chez Emmanuel Macron, c'est que l'engouement qu'il suscite précède le programme et précède les propositions.
Ah, c'est ça qui est intéressant, c'est un peu déstabilisant aussi.
Justement, pourquoi? Parce que ce qui rassemble autour de lui, c'est une vision. C'est une vision pour la France et une vision pour l'avenir. Et très clairement, les changements, et on peut le voir partout ailleurs, les changements fondamentaux, on ne peut les imposer dans une démocratie que si on provoque ce consensus. Et ce consensus, il doit être sur cette vision. Les mesures, elles viendront ensuite.
Et alors, la vision, c'est quoi?
La vision, c'est un monde qui, justement, où on va changer les pratiques, on va rénover le personnel politique, parce que la politique, ce sont des idées, mais ce sont aussi des hommes et des femmes, et qu'aujourd'hui, il faut changer ce personnel, profondément, si on veut changer les pratiques, si on ne veut pas rester...
Tout le monde dit ça maintenant, Jérôme Grandet. Tout le monde, tous les candidats, effectivement, disent qu'il faut une 6e République, on va changer les pratiques, on va faire autrement,
moins de députés, plus de citoyenneté. C'est pas ce que j'ai entendu dans le programme de François Fillon, et c'est pas ce que j'ai entendu non plus dans le programme de Benoît Hamon. Mais surtout... derrière Emmanuel Macron, il y a vraiment la volonté de se départir de toute une génération qui est à bout de souffle, qui n'a plus d'idées.
Bruno Le Maire, au soir de sa défaite, il rallie immédiatement François Fillon. Vous l'y encouragez ce soir-là?
Oui.
Ah oui. Donc vous l'encouragez à prendre une option que vous-même vous repoussez. Où est la cohérence?
La cohérence, elle est dans la loyauté vis-à-vis de Bruno Le Maire, qui restera quoi qu'il arrive, mon ami, à qui j'ai beaucoup d'affection et d'admiration.
Vous n'êtes pas brouillé, parce qu'on dit que vous ne vous entendez plus.
Pas du tout. Il est mon ami, j'ai beaucoup d'affection et d'admiration pour quelqu'un qui est de très grande valeur. Simplement, Bruno Le Maire a un parcours politique, est un élu de droite, député. La logique de son parcours politique voulait qu'il rallie le vainqueur de la primaire, quoi qu'il arrive. Et donc, moi, j'ai évidemment fait un peu le go-between, parce que derrière, je connaissais bien les équipes. Mais ensuite, mon choix personnel, lui, est complètement différent.
Vous disiez tout à l'heure, François Fillon, c'est Margaret Thatcher. Donc, ça sous-entend que vous estimez que son programme, quoi qu'il lui arrive après, dans le cadre des affaires, son programme n'est pas bon pour la France. À moins que vous ayez une admiration sans bande.
J'ai une vraie interrogation sur la capacité de François Fillon à appliquer le programme qu'il annonce, du fait de sa brutalité.
Il n'appliquera pas ses propositions, ses réformes.
D'abord parce qu'on ne voit pas tellement comment est-ce qu'il pourra résister à la rue, alors que même il faisait le même constat d'une France en faillite, Premier ministre, et qu'il a quand même résisté à Nicolas Sarkozy. Donc je ne vois pas là...
La capacité de l'homme à réformer.
Et puis surtout, le programme tel qu'il existe aujourd'hui, au moins tel qu'il a été exposé pendant la primaire, est quand même un programme très brutal. Moi, il me fait penser au programme de Jacques Chirac en 1988, qui a mené à la défaite que l'on sait.
On parlait des affaires, on accuse Emmanuel Macron d'avoir utilisé 120 000 euros de frais de bouche poche des notes de frais de Bercy au profit de sa campagne. C'est troublant, non? Dans ce, on en parle moins parce qu'effectivement, il y a l'affaire Fillon.
Mais... Moi, j'ai été directeur à Bercy. Les responsables à Bercy, qu'ils soient ministres ou directeurs, on dispose de frais de représentation. Et c'est quoi? Ce sont des frais qui vous permettent de faire votre travail. C'est-à-dire de voir des gens, de vous déplacer, d'aller à l'étranger. Un ministre qui n'utilise pas ses frais de représentation, c'est un ministre qui ne fait pas bien son travail.
Vous connaissiez Emmanuel Macron il y a encore quelques semaines?
Non.
Non, vous l'avez rencontré, il vous a séduit.
Ah oui, complètement. Voilà.
Et vous mettez à son service, complètement, pour, en deux mots, pour faire quoi?
Ah ben pour lui apporter ma petite expérience en campagne électorale, quelques campagnes présidentielles victorieuses.
Voilà, le ralliement de Jérôme Grandenon à Emmanuel Macron ce matin sur RTL. Merci à vous d'avoir été notre invité ce
matin. Merci.
Toute l'intelligence d'Emmanuel Macron est d'avoir échappé au système en évitant la primaire, vient de nous dire Jérôme Grandenon. J'ai changé de bateau, je n'ai pas changé de direction, nous dit donc l'ex-directeur de campagne de Bruno Le Maire, qui maintenant est derrière Emmanuel Macron. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver, bien entendu, en intégralité sur le site rtl.fr.